Voici une question dont la réponse nous donnera la recette du vrai bonheur. Est-ce que l'espoir que produit le message de l'Évangile s'adresse au monde entier? La parole de Dieu va nous donner une réponse claire et précise aujourd'hui à l'émission « À travers la Bible ».
Chers auditeurs, pour en savoir davantage sur le contenu de cette émission, vous pouvez contacter en tout temps Radio Espoir via Internet à www.radioespoir.ca ou par téléphone, sans frais, au 1-877-LESPOIR, 1-877-537-7647.
Bonjour, ici Caro. Écoutons bien les questions suivantes. Et surtout les réponses que nous allons trouver dans les Saintes Écritures aujourd'hui. Elles sont pour tout le monde, peu importe qui nous sommes. Voici les questions. Est-ce que le message d'espoir de l'Évangile s'adresse au monde entier? Devons-nous avoir des sentiments de sympathie envers Jésus pour sa mort à la croix? À qui Dieu se fait-il connaître? Quelle est la différence entre le baptême que Jean effectuait et celui que Jésus effectue? Est-ce que les faits de la Bible sont historiques? Les prédicateurs doivent-ils prêcher ce que demande leur congrégation ou ce que demande la Bible? Est-il important de prêcher la repentance? Je crois que Dieu va en surprendre plusieurs par les réponses qu'il va donner aux questions que je viens de poser. Et je suis certaine que plusieurs parmi vous avaient déjà posé quelques-unes de ces questions. Le pasteur Régent Joly a ouvert sa Bible et il est prêt à nous communiquer tout ce bon enseignement de la parole de Dieu. Mais avant de l'entendre, prions. Seigneur mon Dieu, viens nous instruire aujourd'hui. Nos cœurs sont ouverts et sont prêts à entendre ce que tu veux nous dire. Reprends-nous, parle-nous, enseigne-nous. On est ouvert à ta parole, on est ouvert à ton cœur, à tes désirs pour nous. Viens nous instruire, mon Dieu. Amen. À toi, Régent.
Merci, Caro. À la dernière émission, nous avons traité de la naissance du Seigneur Jésus. Nous sommes toujours dans le deuxième chapitre de l'Évangile selon Luc. C'est une merveilleuse histoire, à la fois humaine et divine. Tout comme Jésus est Dieu fait homme, nous étudions présentement un livre dont Dieu est l'auteur. Nous y trouvons une merveilleuse présentation de Jésus. Maintenant, nous reprenons au verset 31. La dernière fois, nous nous sommes laissés au milieu du cantique de Siméon. Seul l'évangéliste Luc nous donne les cantiques de la naissance de Jésus. Le Saint-Esprit avait annoncé à Siméon qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Messie. Chers amis, débutons notre lecture de l'Évangile selon Luc, chapitre 2, versets 29 à 32. Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole. Car mes yeux ont vu ton salut. Salut que tu as préparé devant tous les peuples. Lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël, ton peuple. Ce sont des paroles étonnantes d'un homme qui a toujours vécu dans une région géographique restreinte. Cependant, il a vu le Sauveur du monde. C'est un élément formidable de la parole de Dieu, surtout dans le Nouveau Testament. Même si le message est donné à quelques personnes en particulier, il s'adresse au monde entier. Aucune autre religion ne fait cela. En général, les religions se retrouvent chez certains peuples et s'adressent à un groupe ethnique ou une nation. Mais depuis le début, le christianisme a manifesté sa composante universel. Versets 33 à 35. Son père et sa mère étaient dans l'admiration des choses qu'on disait de lui. Siméon les bénit et dit à Marie, sa mère, « Voici, cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de beaucoup en Israël, et à devenir un signe qui provoquera la contradiction. Et à toi-même, une épée te transpercera l'âme, afin que les pensées de beaucoup de cœurs soient dévoilées. » Marie a payé un grand prix pour donner naissance au Sauveur du monde. Elle s'est tenue au pied de la croix et elle a vu son Fils mourir. De nombreux artistes ont dépeint la croix avec des tableaux, des cantiques, des poèmes. Ces portraits sont souvent émouvants. Mais le danger, c'est que nous regardions la croix avec sympathie. Christ n'est pas mort pour susciter des sentiments de sympathie. Ce qu'il désire vraiment, c'est que nous placions notre foi dans sa mort à la croix, qui est un sacrifice pour nos péchés. Lorsque Christ était en route pour le calvaire, des femmes pleuraient. Jésus leur a dit, « Filles de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, mais pleurez sur vous et sur vos enfants. » L'Évangile selon Luc, chapitre 23, verset 28. Gardons nos larmes pour nous et nos familles. Jésus ne veut pas que nous pleurions, mais que nous placions notre foi en lui. Lorsque Marie était au pied de la croix, elle a eu le cœur brisé en voyant son Fils mourir. Sa souffrance n'avait rien à voir avec son salut ou le nôtre. Elle exprimait la souffrance d'une mère humaine. Elle avait donné naissance à Jésus, et elle l'avait élevé. À la croix, Jésus s'est occupé d'elle en la confiant à l'apôtre Jean. C'était une relation humaine entre Jésus et sa mère. C'est à ce moment-là que s'est accomplie la prophétie de Jésus. Versets 36 à 38. Il y avait aussi une prophétesse, Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Azer. Elle était fort avancée en âge, et elle avait vécu 7 ans avec son mari depuis sa virginité. Restée veuve et âgée de 84 ans, elle ne quittait pas le temple, et elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et dans la prière. Étant survenue, elle aussi, à cette même heure, elle louait Dieu, et elle parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Anne, tout comme Siméon, était en relation intime avec Dieu. Elle a aussi eu le privilège de reconnaître le Messie. Elle a loué le Seigneur, même si le cantique n'est pas rapporté dans l'Évangile. Peu de personnes ont su que Jésus était le Messie attendu lorsqu'il fut présenté au temple. Siméon et Anne étaient des personnes qui avaient cultivé une relation intime avec Dieu. C'étaient des gens ordinaires comme vous et moi. Pas des grands de ce monde, pas des rois, des fils de rois, des politiciens, des prêtres ou de grandes vedettes. Dieu se fait connaître à tous ceux qui désirent le connaître intimement. Siméon et Anne étaient de ceux-là. Et ils sont les deux privilégiés à qui le Saint-Esprit a révélé la véritable identité du petit enfant qu'on amenait au temple pour le faire circoncire. Approchez-vous de Dieu, et il se fera connaître à vous. Approchez-vous de Dieu en lisant et en méditant sa parole tout en lui demandant de vous éclairer. Certains parlent des 10 tribus perdues d'Israël. Ce n'est pas le cas. Nous retrouvons des mentions de presque toutes les tribus après le retour de la captivité. Le texte nous précise qu'Anne appartenait à la tribu d'Azer. Puisque Matthieu et Luc s'adressent à des lecteurs différents, Luc, qui présente l'homme parfait, ne rapporte pas l'exil en Égypte, ce qu'a fait Matthieu, qui présente Jésus comme roi. De plus, la venue des mages n'est pas nécessaire pour présenter l'homme parfait. Donc, Luc l'omet. Versets 39 et 40. Lorsqu'ils eurent accompli tout ce qu'ordonnait la loi du Seigneur, Joseph et Marie retournèrent en Galilée, à Nazareth, leur ville. Or, l'enfant croissait et se fortifiait. Il était rempli de sagesse et la grâce de Dieu était sur lui. La main de Dieu fut sur Jésus pendant son enfance. Il grandit rempli de sagesse et de grâce. Maintenant, voici un incident que seul Luc rapporte. Les versets 41 à 45. Les parents de Jésus allaient chaque année à Jérusalem à la fête de Pâques. Lorsqu'il fut âgé de 12 ans, ils y montèrent selon la coutume de la fête. Puis, quand les jours furent écoulés et qu'ils s'en retournèrent, l'enfant Jésus resta à Jérusalem. Son père et sa mère ne s'en aperçurent pas. Croyant qu'il était avec leurs compagnons de voyage, ils firent une journée de chemin et le cherchèrent parmi leurs parents et leurs connaissances. Mais, ne l'ayant pas trouvé, ils retournèrent à Jérusalem pour le chercher. Marie et Joseph ont élevé un garçon normal. Il ne portait pas d'auréole, comme le laissent entendre les artistes du Moyen Âge, et il n'a pas fait les choses extraordinaires à compter dans les évangiles apocryphes, soit les évangiles non inspirés, qui n'ont pas été acceptés pour faire partie de la Bible. Cependant, Jésus était comme tous les autres garçons. En fait, il était à tel point que lorsqu'il a commencé son ministère public, la population de Nazareth en fut étonnée. De plus, sa mère, ses frères et ses sœurs étaient venus le chercher, croyant qu'il était devenu fou. De toute évidence, ceux qui ont connu Jésus avant son ministère public n'étaient pas habitués à le voir faire des miracles et des choses extraordinaires. Jésus a pris sur lui notre humanité pour devenir l'agneau de Dieu sans défaut et sans tache qui a ôté les péchés du monde. À cette époque, les gens voyageaient en caravane. Il est probable que les gens de la Galilée s'étaient donné un rendez-vous pour faire le voyage du retour ensemble. C'est à ce moment-là que Joseph et Marie se sont rendus compte que Jésus n'était pas avec eux. Ils retournèrent à Jérusalem pour le trouver. Versets 46 à 50. Au bout de 3 jours, ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant. Tous ceux qui l'entendaient étaient frappés de son intelligence et de ses réponses. Quand ses parents le virent, ils furent saisis d'étonnement, et sa mère lui dit, « Mon enfant, pourquoi as-tu agi de la sorte avec nous? Voici, ton père et moi, nous te cherchions avec angoisse. » Il leur dit, « Pourquoi me cherchiez-vous? Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père? » Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Il semble que Jésus ait posé des questions que l'élite religieuse n'a pas pu répondre. À 12 ans, Jésus étonnait déjà les docteurs de la loi. Les parents de Jésus n'étaient pas de la meilleure humeur. Cependant, Jésus fut étonné de leur réaction. Ses parents auraient dû savoir qu'il devait s'occuper des affaires de son Père céleste. De toute évidence, Jésus ne devait pas chercher à obtenir un contrat de construction pour Joseph, son père nourricier. Il parlait du Père céleste. Versets 51 et 52. Puis il descendit avec eux pour aller à Nazareth, et il leur était soumis. Sa mère gardait toutes ces choses dans son cœur. Et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce, devant Dieu et devant les hommes. Jésus fut soumis à ses parents. Ceci contraste avec l'attitude des jeunes d'aujourd'hui, qui se rebellent et qui demandent à être entendus et réclament leurs droits. Aujourd'hui, on permet aux jeunes de s'exprimer. Cependant, ils reçoivent parfois de l'information tendancieuse, et ils n'ont pas toujours l'expérience pour bien l'évaluer. Maintenant, nous passons au 3e chapitre de l'Évangile. Luc, qui est un historien, situe le ministère de Jean-Baptiste dans le contexte historique de l'époque. Il met l'accent sur le même élément que Jean-Baptiste, soit sur le message de repentance comme condition de la venue du Messie. Suivant la coutume du système mosaïque qui consistait à se laver par immersion à cette époque, Jean baptise ceux qui viennent à lui afin de se préparer pour la venue de Christ par une réforme morale. Christ baptisera du Saint-Esprit, effectuant une véritable transformation. La généalogie de Marie, que l'on retrouve dans ce chapitre, nous révèle aussi 2 faits. Premièrement, elle remonte à Adam, le père de l'humanité. Donc, Jésus était vraiment humain. Matthieu, qui présentait Jésus comme le roi, n'est pas remonté plus loin qu'Abraham. Luc présente Jésus l'homme, donc il remonte à Adam. Deuxièmement, Marie est descendante du roi David, mais pas par Salomon, mais par Nathan, un autre fils du roi David. Ce chapitre contient beaucoup de détails. Luc tient à être exact dans son récit. Poursuivons notre lecture de l'Évangile de Luc, chapitre 3, verset 1er. La 15e année du règne de Tibère César, lorsque Ponce Pilate était gouverneur de la Judée, Hérode, tétraque de la Galilée, son frère Philippe, tétraque de l'Iturée et du territoire de la Traconite, Lysanias, tétraque de l'Abilène. 6 personnages historiques sont mentionnés dans ce verset, ce qui permet de déterminer la date des événements. César Auguste est empereur au moment de la naissance de Jésus. Cependant, c'est Tibère César qui est empereur alors que Jean-Baptiste entreprend son ministère. L'histoire nous dit que Tibère César était un homme intelligent, mais brutal. Il était un homme rusé, inhumain et profane. Il désirait régner sur le monde. Ensuite, les noms des hommes de paille nous sont donnés. Verset 2. Et du temps des souverains sacrificateurs, Anne et Caïphe, la parole de Dieu fut adressée à Jean, fils de Zacharie, dans le désert. Anne et Caïphe étaient les souverains sacrificateurs. Pourquoi y en avait-il deux? L'existence de deux prêtres révèle le pouvoir de Rome sur l'élite religieuse de Jérusalem. En passant, Anne, quoi qu'il porte ce prénom, est ici un homme. Anne détenait le pouvoir du trône, mais Caïphe était l'homme placé par Rome. Normalement, Jean-Baptiste aurait dû servir au temple comme son père. Il aurait dû faire partie de l'élite, mais il ne voulait rien savoir de cela. Il a plutôt renoncé à la prêtrise pour se retirer dans le désert. Refusant de travailler dans un système pourri, il est devenu un prophète. Jean-Baptiste est un de ces personnages originaux que nous croisons de temps à autre dans la Bible. Il rappelait au peuple le prophète Élie, parce qu'il se comportait de façon semblable à celui-ci. Il rappelait aussi celui qui viendrait bientôt, soit le Messie. Jean était un personnage exceptionnel. Luc nous a raconté sa naissance miraculeuse qui fut annoncée par l'ange Gabriel alors qu'il est apparu à Zacharie, le père de Jean. La Bible ne nous dit rien de son enfance. Nous le retrouvons exerçant son ministère public. Il fut prêtre, prophète et prédicateur. Il fut un prêtre par sa naissance puisqu'il était le fils de Zacharie. Mais Dieu l'a appelé à devenir un prophète. Verset 3. Et il alla dans tout le pays des environs du Jourdain, prêchant le baptême de repentance à cause du pardon des péchés. Jean a prêché le baptême de la repentance. Il est le dernier prophète. En fait, c'est un personnage de l'Ancien Testament dont la vie a débordé dans le Nouveau Testament. Il s'est distingué par son habillement, son régime alimentaire et par son apparence. Il sera reçu comme le furent de nombreux prophètes. Il sera mis à mort. Les messages des prophètes, et c'est le cas encore aujourd'hui, ne furent jamais populaires. Le monde ne reçoit pas ceux qui contredisent ou rejettent ces philosophies. Si tu veux être populaire, et cela est vrai des prédicateurs. Il faut prêcher ce que la foule veut entendre. Puisse Dieu avoir pitié des prédicateurs qui se font l'écho de ce que dit leur congrégation. Le monde ne veut pas entendre la voix de Dieu, surtout si elle parle de jugement. Le message de Jean était clair et puissant. Versets 4 à 7. Selon ce qui est écrit dans le livre des paroles d'Ésaïe, le prophète, c'est la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Toute vallée sera comblée, toute montagne et toute colline seront abaissées. Ce qui est tortueux sera redressé, et les chemins raboteux seront aplanis. Et toute chair verra le salut de Dieu. Il disait donc à ceux qui venaient en foule pour être baptisés par lui. Race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Je me demande combien de temps un pasteur conserverait son poste si le dimanche il débutait sa prédication par « race de vipères ». Il serait probablement remplacé avant le dimanche suivant. Je ne recommande pas d'utiliser l'introduction de Jean, même si elle serait appropriée dans bien des églises. Verset 8. Produisez donc des fruits dignes de la repentance, et ne vous mettez pas à dire en vous-même, « Nous avons Abraham pour père. » Car je vous déclare que de ces pierres, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Jean prêchait le message de la repentance. Aujourd'hui, nous prêchons le salut par la foi, mais ce message comprend aussi la repentance. Paul a dit aux Thessaloniciens, « Et comment vous vous êtes convertis à Dieu? En abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. » Citation de 1 Thessaloniciens, chapitre 1er, verset 9. Nous ne pouvons pas nous tourner vers Dieu sans nous détourner de quelque chose. Lorsque tu te tournes vers Dieu, tu vires le dos au péché. C'est cela la repentance. Lorsque tu acceptes Christ comme sauveur, tu te détournes des choses du monde. Il se peut que vous ayez entendu parler de l'amour de Dieu, mais vous n'avez pas été touché par celui-ci. Et vous vous demandez pourquoi. Alors, il vous faut entendre la voix qui crie dans le désert, « Repentez-vous !» Nous prêchons la grâce de Dieu, et si vous êtes bénéficiaire de cette grâce et que vous vous êtes tourné vers Dieu, vous devez vous détourner maintenant de vos péchés. Si vous ne tournez pas le dos au péché, cela veut dire que vous tournez le dos à Dieu. La repentance est comprise dans le message du salut, même si l'accent est souvent mis sur la foi. Sans véritable repentance, il ne peut y avoir de véritable salut. Il faut les deux éléments afin d'être sauvé. Il vous faut vivre la repentance et la foi. Repentance de vos péchés, vous détourner du mal et de vous tourner vers Jésus-Christ, avoir confiance en lui seul. Sois attentif à ce que te disent les Écritures. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Cesse de fuir, car Dieu te veut du bien. Ne vois-tu pas le cul-de-sac dans lequel tu vis? Ne vois-tu pas qu'il y aura une fin de ce monde? Et que même si Dieu n'y mettait pas fin lui-même, les hommes sont en train d'y mettre fin de toute façon. Mon ami, Dieu te tend une perche. Attrape-la et laisse-toi déraciner de ce sol pervers et malicieux dans lequel tu as été mis, malgré toi. Car la Bible déclare, tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Romains chapitre 3, verset 23. Mais la Bible dit aussi que le Fils de l'homme est venu sauver ce qui était perdu. Matthieu chapitre 18, verset 11. Oui, mon ami, tous sont péchés, tous sont perdus, et si tu n'as pas Jésus, tu y es inclus. Repens-toi et crois. Prochaine émission, Luc chapitre 3, verset 9 à chapitre 4, verset 13.
Merci beaucoup, Régent. L'Évangile est un message d'espoir universel. On a vu aujourd'hui que Dieu s'adresse à tout le monde par sa parole. Quel Dieu merveilleux! La Bible nous enseigne à ne pas faire exception de personne. Et Dieu est le modèle par excellence pour nous. Dieu aime toutes ses créatures et il veut que tous soient sauvés. mais il nous a créés libres d'accepter ce salut ou de le refuser. Régent nous a mentionné que Dieu se fait connaître à ceux qui cultivent une relation intime avec lui. Il ne s'adresse pas seulement aux grands de ce monde, aux rois, aux politiciens, aux prêtres ou aux grandes vedettes. Il se fait connaître à tous ceux qui désirent le connaître intimement, des gens comme vous et moi. Mon ami, si tu t'approches de Dieu en priant, en lisant et en méditant la Bible, qui est sa parole, et en lui demandant de t'éclairer, il va t'accueillir. C'est sûr, il va se faire connaître à toi. On a vu aussi que Jean prêchait la repentance. On a appris que le message de la foi qu'on prêche aujourd'hui comprend la repentance. Mon ami, tu ne peux pas te tourner vers Dieu sans te détourner de quelque chose. Quand je me suis tourné vers Dieu il y a 26 ans, je me suis détourné du péché. Je me suis détourné de ma vie de débauche, de mensonge. Je me suis détourné des choses que Dieu n'approuve pas. C'est ça la vraie repentance. Et ce message de repentance, c'est pour toi aussi. On a tous quelque chose à abandonner pour se tourner vers Dieu. Ce Dieu qui est trois fois saint et qui ne peut pas supporter le péché. Il aime sa créature, mais il déteste le péché que commet sa créature. Mon ami, de quoi est-ce que toi, tu dois te détourner? Est-ce que ce serait l'adultère, le blasphème, le mensonge, l'orgueil, ou même la religion, si elle comprend des pratiques qui sont interdites par la parole de Dieu? De quoi est-ce que tu dois te détourner? La Bible dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. L'apôtre Pierre nous dit dans sa deuxième épître au chapitre 3, verset 9, que le Seigneur use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Il ajoute aussi que le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Es-tu prêt à faire face au jour du Seigneur? Es-tu prêt à faire face au moment où le Seigneur va terminer tes jours sur cette terre? Es-tu sûr que quand tu vas mourir, tu vas aller au ciel? Tu peux faire ton choix maintenant. Reconnais que tu es un pécheur perdu. Repens-toi. Détourne-toi de tout ce qui est péché dans ta vie et demande au Seigneur Jésus de te sauver. Il a tout accompli pour payer ta place au ciel. Laisse-le entrer. Reçois Jésus comme ton sauveur. Régent, je pense que les gens comprennent pas exactement c'est quoi un déjeuner de l'espoir. Pourrais-tu l'expliquer?
Avec joie, Caro. Les gens sont invités à venir participer à un déjeuner de l'espoir qui se déroule dans un restaurant. Un endroit où les gens sont habitués à venir. Qui n'a pas pris un repas dans un restaurant? C'est un lieu public. Alors, les gens viennent, ils y assistent et ils peuvent manger gratuitement.
Wow!
Gratuitement, en plus d'entendre un merveilleux témoignage, c'est ça qui fait que le déjeuner est merveilleux, c'est qu'il y a un témoignage d'une personne. Ça pourrait être toi, Caro, ou moi, ou une toute autre personne qui a vécu une expérience personnelle avec Dieu. Comment est-ce que Dieu a transformé, changé, je pourrais même dire bouleversé sa vie?
Eh oui! Dieu a vraiment bouleversé la mienne et j'aime ça raconter ça. J'aime ça aussi pouvoir chanter mes anciens succès. C'est le fun de voir les gens qui rient d'entendre toutes ces anciennes chansons-là. Et finalement, je leur dis ce que Dieu a fait pour moi. Puis c'est merveilleux. C'est bon dans mon cœur de l'annoncer aux gens combien Dieu les aime. Et ça se fait à la grandeur du Québec.
Comment peut-on savoir s'il y en a un près de chez nous?
Eh bien, vous pouvez nous rejoindre par téléphone.
1-877-LESPOIR, 1-877-537-7647 ou via courriel
à www.radioespoir.ca ou à notre adresse postale.
Radio Espoir, casier postal 34-143 Charlebourg, province de Québec, G1G-6P2. Chers amis, au revoir.
Et à demain. Cette émission vous a été présentée par Radio Espoir.